Alors, Jésus vient illustrer la mauvaise façon de prier qui consiste à partir de soi, à démarrer à partir de ses propres besoins. Et dans le cas du pharisien ici, c'est de prier intérieurement. Vous avez remarqué qu'il est dit qu'il prie intérieurement en énumérant au Seigneur ses propres mérites, ses propres qualités, tout ce qu'il a fait, et comment il se trouve un homme bien, et particulièrement mieux que les autres de préférence, évidemment, en particulier de ce publicain là, derrière. Quelle engeance, ces publicains, des voleurs, des types pas recommandables. Bref, il avait une autre opinion de soi-même. Il n'y a pas de thermomètre pour mesurer ça, c'est dommage, mais je suis persuadé qu'à certains moments, nous faisons des poussées. Nous faisons des poussées de haute opinion de nous-mêmes. Nous pensons que nous sommes des hommes et des femmes assez remarquables, finalement. Il n'y a qu'à nous regarder, hein. On n'est tout de même pas n'importe qui. Et donc, tout va très bien, Madame la Marquise. On ne voit pas pourquoi on aurait à se mettre en quatre pour supplier le Seigneur pour certaines choses. Remarquez bien que lorsque Jésus nous a enseigné le Notre Père, il nous a bien fait comprendre que nous n'avions pas à partir de nous-mêmes, à partir de nos propres besoins, à partir de nos propres idées, de nos propres perspectives. Dans le Notre Père, ces choses-là viennent après, en deuxième partie. C'est à la fin du Notre Père que Jésus nous fait demander le pain dont nous avons besoin, donne-le-nous aujourd'hui, le pardon des péchés, accorde-le-nous, et s'il nous arrive de tomber dans la tentation, eh bien, viens nous délivrer. Voilà. Et encore, ce sont des choses que nous n'aurions pas pensé à demander nous-mêmes, parce que nous sommes sur d'autres longueurs d'onde que celle-là, sans doute. Et Jésus nous montre ce qu'il nous faut demander vraiment, à savoir le pain eucharistique, le pardon des péchés, la force de l'Esprit Saint pour lutter contre la tentation et le secours final de Dieu pour venir nous libérer si jamais nous tombons dedans, dans le péché. Voilà, ce sont les choses essentielles qu'il nous faut demander sans cesse. Et nous sommes loin, vous comprenez bien, de ces prières relativement intéressées ou matérielles que nous faisons fréquemment au Seigneur concernant nos petits besoins personnels. Dans le sanctuaire marial que je desservais jusqu'à il y a peu de temps, je regardais de temps en temps le cahier des intentions, et vous savez bien que ces intentions sont de trois natures. Il y a celle qui concerne la vie familiale, et en particulier la réconciliation dans les familles, ou les enfants et les petits-enfants. Il y a celle qui concerne la vie professionnelle, pour que je trouve un travail, etc. Puis il y a celle qui concerne la santé, pour que ma santé aille mieux, ou celle de mes proches. Ce sont les trois perspectives les plus fréquentes qui reviennent sur ces cahiers d'intentions qui se trouvent dans nos sanctuaires. Mais dans le Notre Père, on ne trouve aucune trace de cela, et Jésus considère que Dieu sait ce qu'il nous faut avant même que nous l'ayons demandé. C'est une de ses paroles. Donc ce n'est pas la peine de forcément faire étalage de tous nos besoins, quoique à certains autres endroits, ils nous disent qu'il faut insister et demander avec insistance. Ah, comme quoi on trouve des choses contradictoires quelquefois dans la parole de Dieu elle-même, vous voyez. Jésus nous dit, le Père sait, ce n'est pas la peine de rabâcher. Et puis en même temps, il nous dit, si vous avez besoin de quelque chose, insistez, demandez avec insistance. Voilà. En tout cas, ce qu'il nous faut demander, Jésus nous l'a fait comprendre. Le pain eucharistique, la fin du pain eucharistique, le pardon des péchés, et puis la force de l'Esprit Saint pour lutter contre la tentation. Comment pouvons-nous bien prier ? Eh bien d'abord, par l'humilité du cœur. On le voit chez ce publicain dont Jésus va dire que c'est lui qui a été justifié, c'est lui qui est devenu juste. Qu'est-ce que c'est qu'être juste? C'est peut-être pas un mot qu'on emploie fréquemment, mais s'ajuster à Dieu, à l'amour de Dieu lui-même. Voilà. Ce publicain s'était vraiment branché correctement sur l'amour de Dieu, en reconnaissant que lui, eh bien, il n'avait droit à rien, qu'il n'était rien. « Je ne suis que poussière et cendre », comme disait Abraham en s'adressant à Dieu. Et voilà, il était conscient de son propre péché, conscient qu'il avait tout à se reprocher devant Dieu, mais conscient aussi de la miséricorde de Dieu. Et donc, faisant appel à cette miséricorde et en disant « Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis ». Voilà une bonne façon de se brancher sur la miséricorde de Dieu, sur l'amour de Dieu, d'être ajusté à l'amour de Dieu, et donc de repartir dans une communion plus profonde avec Dieu. Alors que le pharisien, lui, va finalement ne pas sortir de son ego et ne pas sortir de lui-même, et donc ne même pas chercher à être en communion profonde avec Dieu, puisque il a tout ce qu'il lui faut et il n'a rien à demander particulièrement. Voilà. Au fond, il y a une prière qui peut être une fausse prière et une façon de nous, comment dire, de nous enfermer en nous-mêmes dans notre bulle et de ne pas, en conséquence, vivre une communion avec Dieu qui soit féconde pour notre vie de chaque jour et pour notre sanctification, notre transformation. Je me posais la question en écoutant cette parabole avec le thème de notre week-end sur la Vierge Marie. Je me posais la question, au fond, est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre la prière du publicain, dont Jésus dit qu'il a été justifié et devenu juste, et la prière de la Vierge Marie? Curieuse question. Quelle est la prière de la Vierge Marie? C'est le Magnificat. Et dans le Magnificat, la Vierge Marie se tourne vers Dieu et elle dit « Grand est le Seigneur ». Voilà, la première parole du Magnificat, c'est non pas « Mon âme magnifie le Seigneur », mais quand vous regardez le texte grec, « Grand est le Seigneur » et « Mon esprit le proclame », voilà, « Mon âme le proclame »,« Grand est le Seigneur ». Elle se tourne vers Dieu pour le magnifier, proclamer sa grandeur. Et quant à elle-même, elle va dire « Il a jeté les yeux sur la pauvreté de sa servante, sur l'abaissement de sa servante ». Donc, elle vit bien une prière humble, humble. Elle a conscience qu'elle reçoit tout de Dieu, qu'elle doit tout à Dieu, que seul Dieu est grand et qu'elle, elle n'est rien. C'est intéressant par rapport à ce qu'on disait sur l'Immaculée Conception, par exemple. Hein, certes, la Vierge Marie a été préservée du péché d'origine, a été dotée d'une sainteté originelle qui la rend toute particulière. Donc elle est gracieuse, graciée et pleine de grâce, comme dit l'ange Gabriel. Mais en même temps, elle n'a pas vraiment conscience de ce don extraordinaire de Dieu et elle est profondément humble. Elle n'est pas là en train de se glorifier elle-même des dons qu'elle a reçus de Dieu, mais elle rapporte tout à Dieu. Et je crois qu'il y a une grande proximité entre la prière du publicain qui, lui, est pécheur et marqué par le péché et fait appel à la miséricorde du Père, et la prière de la Vierge Marie qui, elle, a été miséricordiée par avance et qui fait retour à Dieu de ce don qui lui a été fait en toute humilité. Vous le savez, l'un des axes essentiels du pontificat de Jean-Paul II aura été la miséricorde. On le verra certainement quand on aura du recul au niveau de ce pontificat. Et l'un de ses derniers grands déplacements a consisté à retourner en Pologne pour consacrer le sanctuaire à la divine miséricorde. Mais auparavant, il y avait eu la canonisation de Sainte Faustine en l'an 2000, et puis sa béatification, et puis la fameuse encyclique, relisez cela un jour si vous avez du temps, la fameuse encyclique sur la miséricorde. En 1981, Jean-Paul II, après avoir donné la première encyclique sur le rédempteur de l'homme, a donné une seconde sur Dieu riche en miséricorde. Et ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est qu'en tant qu'archevêque de Cracovie, il avait dirigé le procès diocésain concernant Sœur Faustine, puisqu'elle était originaire de Cracovie, et donc il avait eu à travailler tous les écrits de Sœur Faustine sur la miséricorde, et donc il était pleinement conscient de la valeur de ce message, de ce que Jésus avait dit à Sœur Faustine. Et vous avez là, entre parenthèses, puisque nous parlions tout à l'heure, je ne cesse de faire des coq à l'âne, mais nous avons là un bel exemple d'une révélation privée qui a été vraiment incorporée par l'Église. Très bel exemple avec Sœur Faustine et le message de la miséricorde. Ça a abouti jusqu'à une fête liturgique de la Divine Miséricorde, le deuxième dimanche de Pâques. De même que pour Parelle Moniale, avec Sœur Marguerite Marie à la coque, eh bien on avait abouti à la fête du Sacré-Cœur de Jésus qui est dans le missel. Ça, c'est la façon dont l'Église traite les révélations privées lorsque vraiment elles viennent de Dieu. Elle commence par les examiner et par examiner la vie de ceux qui les reçoivent, par les béatifier, les canoniser si nécessaire. En tout cas, elle prend son temps et ce n'est que quelquefois assez longtemps après qu'on aboutira à la proposition du message que le Seigneur avait donné pour toute l'Église et pour l'Église universelle, et aussi à l'insertion dans le missal romain d'une fête liturgique afférente à l'impact de ce message essentiel que Jésus a voulu donner. Donc là, oui, on se trouve devant une révélation privée qui a été pleinement assumée par l'Église. Le reste, c'est le reste. Heureusement, il existe de grandes poubelles, c'est très important, car il y a vraiment de quoi les remplir. Mais de temps en temps, il y a vraiment de très belles choses que le Seigneur donne et qu'il faut accueillir. Alors, faire appel à la miséricorde, c'est déjà l'attitude de ce publicain. Rendre grâce pour la miséricorde, c'est l'attitude de Marie. Il y a là pour nous, peut-être, un axe à vivre pour notre propre prière, sans cesse nous reconnaître pécheurs devant Dieu. Tiens, j'ai remarqué, vous savez, il y a une chose qui disparaît dans la célébration liturgique, c'est « je confesse à Dieu », mine de rien. Je remarque ça, je viens d'être nommé curé d'une nouvelle paroisse et je me suis dit, tiens, voyons voir. Et régulièrement, à la demande de pardon, on embraye sur le Seigneur, prends pitié, mais on chante, excusez-moi, le je confesse à Dieu. Et ça, c'est une mauvaise façon de faire, me semble-t-il, parce que cette prière est une prière où on se reconnaît pécheur devant Dieu. Donc qui peut produire en nous l'attitude spirituelle pour faire appel à la miséricorde de Dieu. Donc faire appel à la miséricorde de Dieu et puis aussi rendre grâce pour les dons que nous avons reçus de la miséricorde de Dieu. Rendre grâce pour tous les pardons, rendre grâce pour les frères, comme on le disait hier soir, rendre grâce pour l'amour de Dieu qui vient à nous sans cesse et qui nous comble, comme il a comblé la Vierge Marie.